Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est bon pour la santé sur Canal M. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que faire des gestes à votre tout petit bébé et il pourrait vous comprendre en fait par le langage des signes, il pourrait arriver à communiquer avec vous. C'est un phénomène assez récent, le langage des signes pour bébé qui permet de communiquer avec votre tout-petit avant même qu'il n'ait appris à parler. On va en parler avec Marie-Danielle Boucher, elle est enseignante, consultante, conférencière et associée chez Signé Bébé. Également, 125 000, c'est le nombre de Québécois atteints en ce moment de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. C'est un chiffre qui fait peur hein, déjà, mais qui pourrait et devrait doubler d'ici une génération. Et les risques de développer la maladie doublent tous les 5 ans à partir de 65 ans. Septembre, c'est le mois de la sensibilisation à cette maladie et la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer nous invite à peut-être modifier notre mode de vie et inclure des saines habitudes de vie parce qu'il n'est jamais trop tard. On en parle dans quelques instants. Le 21 septembre dernier avait lieu la Journée internationale de la maladie d'Alzheimer et la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer soulignait cette journée sous l'angle des saines habitudes de vie qui diminuent les risques liés à cette maladie. Noa Ben-Gayed, elle directrice des communications à la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer, est là pour nous en parler. Bonjour, merci d'être là, Noa.
Bonjour, merci à vous pour l'invitation.
Donc, maladie dégénérative du cerveau ou maladie neurodégénérative. Donc, il y a un impact sur notre cerveau pour permettre un petit peu plus... On en parle de plein de façons de la maladie d'Alzheimer et par grande chance, ce qu'on sait peut-être moins, c'est les effets, l'impact, les changements que ça amène sur notre cerveau.
Mm-hmm. En effet, donc en fait, la maladie d'Alzheimer a été décrite la première fois en 1906 par donc, le docteur Alois Alzheimer. Et depuis, en fait, les changements du cerveau qu'il avait déjà décrits, c'est encore ces changements-là dont on parle encore maintenant dans les années 2000. Donc, les changements qui se produisent, en fait, au niveau du cerveau, ça touche essentiellement deux phénomènes. Donc, le premier, c'est l'enchevêtrement, en fait, des neurofibrillaires qui touche donc la protéine tau, communément connue maintenant, et puis les plaques d'amyloïdes qui vont, elles, se former au niveau de certaines régions du cerveau. Tout le cerveau est en fait sujet à développer ces changements-là. C'est pour cela que la maladie d'Alzheimer va avoir un impact sur plusieurs de nos connaissances, mm-hmm. plusieurs de nos de que ce soit la mémoire, étant donné que plusieurs régions du cerveau sont atteintes.
Est-ce que c'est possible? Et ça, c'est pas la première fois que vous venez, Noa, ici au Canal M pour parler de la maladie d'Alzheimer. Et on en avait parlé cette fois-là, des signes précoces, de la façon de détecter le plus vite possible la maladie d'Alzheimer. Est-ce que c'est possible de le faire?
Ben, en effet, je me rappelle, j'étais venue pour faire la promotion du mois de la sensibilisation en janvier dernier. Et puis, le thème de la campagne, c'était le diagnostic précoce. Comment, en fait, finalement, reconnaître la maladie et aller voir son médecin? Tels sont les...
Le plus tôt possible.
Exactement, et agir le plus tôt possible. Parce que plus les symptômes apparaissent chez une personne, mieux vaut agir assez rapidement, justement, puisque c'est une maladie qui évolue, c'est une maladie qui va justement avoir des impacts sur la vie quotidienne de la personne. Et donc, plus on consulte, mieux c'est. Ceci dit, les signes précurseurs de la maladie, c'est déjà la perte de mémoire lorsque la personne ne sera plus capable en fait d'effectuer les tâches quotidiennes de sa vie courante. C'est également des problèmes de langage, donc là en fait qui sont généralement associés à une désorientation dans l'espace et dans le temps. C'est également un jugement amoindri. La personne aussi a également un changement de son caractère et de sa personnalité. Ça peut se caractériser soit par un excès de violence, malheureusement, c'est ce que décrivent en tous les cas certaines des familles, et c'est ce qu'elles vivent, soit au contraire, c'est par un manque de d'appétit, un manque de vouloir vivre. Donc c'est vraiment, ça touche en fonction de la personne, différents aspects de sa personnalité. C'est également donc une perte d'intérêt totale pour tout ce qui pour tout ce qui l'entoure. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, justement, de continuer à stimuler. Et donc, là, les sociétés Alzheimer offrent des ateliers de stimulation qui sont totalement adaptés pour ce genre de cas.
Et bien sûr, on va y revenir, mais avant, quand ces signaux-là apparaissent, la maladie s'est déjà bien installée. On parle même qu'elle est peut-être installée 10 ans avant même ces premiers signaux-là. À ce moment-là, est-ce qu'il y a moyen d'agir ou de prévenir la maladie?
Prévenir, pour pouvoir prévenir, en fait, il faut connaître les causes de la maladie. Malheureusement, on n'en est pas à ce stade. La seule, finalement, prévention que l'on peut avoir, c'est d'améliorer ou de modifier ses habitudes de vie, parce qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent une relation de cause à effet entre certaines maladies et la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment là qu'on peut intervenir, d'autant plus qu'on ne connaît pas qu'est-ce qui va déclencher une maladie d'Alzheimer chez une personne lambda. Mmh. Tous ne sont pas finalement à risque de la développer. Il y a effectivement des risques génétiques qui sont bien connus, qui représentent 5 à 7% des cas de maladie d'Alzheimer. Mais même avec ces facteurs génétiques, la personne qui porte les gènes responsables de la maladie d'Alzheimer peuvent ne pas la développer, comme une autre personne qui, elle, ne présente aucun risque génétique, va développer la maladie. Mm-hmm. Donc, on en est encore à ce stade. C'est pour ça qu'agir sur nos habitudes de vie, c'est là où on peut justement agir concrètement et prévenir l'apparition des premiers symptômes. D'autant plus que, comme vous le soulignez, les premiers changements du cerveau interviennent bien avant l'apparition des symptômes réels tels qu'on les décrit actuellement.
Oui. On ne connaît pas les causes, mais on connaît les facteurs de risque.
Exactement. Le premier facteur de risque, le plus important, c'est l'âge. Les personnes, en fait, qui ont 65 ans et plus, c'est une personne sur 20 qui va développer la maladie d'Alzheimer. Lorsqu'on atteint 85 ans, c'est une personne sur 4 qui développe la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment là qui est vraiment le nerf de la guerre. On connaît également d'autres facteurs de risque qui, eux, sont liés, en fait, finalement à nos habitudes de vie. C'est le diabète. C'est le cholestérol, c'est la pression artérielle, donc les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est également, comme je disais tantôt, des facteurs génétiques. Mm-hmm. On connaît très bien maintenant le gène, le fameux gène APOE4, qui lui, lorsqu'une personne présente deux exemplaires de ce gène-là, forcément, le risque augmente de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, des études montrent également que le tabagisme est un facteur de risque à la maladie d'Alzheimer. Et donc là, devrait y avoir toute une campagne de sensibilisation pour justement réduire notre consommation de tabac, puisque là, c'est vraiment quelque chose de concret.
Cause à effet.
Exactement.
Mm-hmm. Maintenant, pour amoindrir ces facteurs de risque-là, c'est l'adoption de saines habitudes de vie qui sont mises en place. Donc, on parle maintenant d'activité physique, d'alimentation également. On a pu le détecter, ça, que l'alimentation peut avoir un effet de protection.
Oui. Étant, comme je le disais, les facteurs de risque sont la majorité, en fait, ou je vais dire plutôt la moitié des cas de maladie d'Alzheimer sont liés à des facteurs modifiables. Donc, diabète, cholestérol, pression artérielle, tabac. Et là, on peut agir directement. C'est bien contrôler son diabète, c'est bien contrôler sa pression artérielle. Donc là, vraiment suivre un régime alimentaire adéquat, c'est prendre ses médicaments, c'est arrêter de fumer. Mais c'est aussi la diète méditerranéenne qui, elle, a été prouvée, selon des études démographiques, d'avoir un impact sur la qualité de vie des personnes. C'est également augmenter sa consommation en poisson, par exemple. Il y a quand même une idée qui circule que les oméga-3 ont un effet bénéfique. Là, cas, ça n'a pas vraiment été prouvé comme tel. Mais en tous les cas, voilà, c'est manger mieux, manger plus sainement. C'est également avoir une activité physique et mentale. Activité physique, là, active. Hein. On ne parle pas de faire un petit peu de marche comme ça sur son tapis roulant. Non, c'est vraiment avoir au moins 40 minutes de marche par jour. Et là, en fait, les effets sont bénéfiques en tous les cas. C'est aussi lire les journaux, lire les livres. C'est aussi finalement écrire des lettres. Et là avec les réseaux sociaux et les textos, on a plutôt tendance à envoyer des messages et à faciliter l'écriture. Mais non, c'est vraiment écrire des lettres, écrire tout ce qui nous passe par la tête. Donc voilà, c'est finalement peut-être changer ses habitudes de vie, mais pour le mieux. Et comme justement vous l'avez très bien souligné, il n'est jamais trop tard pour commencer. Et là, c'est... Ça ne tient qu'à nous, finalement.
Ouais. Et c'est également avoir souci de garder ses fonctions cognitives stimulées de façon permanente.
Oui.
On fait ça comment? Bon, vous nous avez déjà glissé des pistes, nous, hein? Lire, écrire.
Lire,
à mon sens, c'est une façon de garder tout ça bien stimulé, c'est-à-dire ses fonctions cognitives bien en vie. Est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire?
D'autres façons, c'est d'avoir une activité qui nous procure du plaisir.
Mm-hmm.
Justement, en ayant une telle activité, on libère en fait des endorphines dans le cerveau et donc on a un sentiment de plaisir, de bien-être et de détente. Donc c'est déjà ça. C'est également faire des petits jeux, les mots croisés, les sudoku, les mots cachés. C'est finalement avoir une activité qui va nous mettre au défi. C'est aller au musée, c'est également essayer de s'instruire, puisque je ne l'avais pas dit tantôt, mais il a été montré que le niveau d'éducation également personnes jouait un rôle, était un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc plus les personnes en fait restaient à l'école plus longtemps, moins était leur risque de développer par la suite la maladie d'Alzheimer. Donc encore, rester à l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre, ça veut dire avoir plus de connaissances, assimiler ses connaissances. Et donc, on peut continuer à le faire même si on n'est pas à l'école.
Oui.
Et là, forcément, c'est la lecture, c'est l'écriture, c'est les sorties. C'est aussi avoir un réseau social. Échanger à deux, en groupe, c'est beaucoup plus bénéfique que d'avoir une activité qu'on pratique seul.
Solitaire, ouais.
Voilà. Donc, c'est autant d'opportunités qu'on a pour rester actif mentalement et ainsi donc diminuer les risques ou en tous les cas la détérioration cognitive.
Ouais. Ce que j'entends, nous, hein, c'est de se mettre au défi un petit peu chaque jour et de se lancer aussi. En même temps, certains grands défis, je me disais, apprendre une langue, ça doit être très, très bénéfique pour la santé du cerveau. Vous alliez dire quelque chose?
J'allais dire justement quelques jours, rebondir ce que vous dites. Les personnes, en fait, qui parlent plusieurs langues, ou en tous les cas, les personnes qui ont, à un jeune âge, appris plusieurs langues, il a été prouvé qu'elles avaient moins de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Donc voilà, encore justement une piste pour se garder stimulé et actif. Donc ça, c'est vraiment, on parle de choses bien concrètes là.
Oui, parce que le déclin cognitif, personne n'y échappe.
Effectivement, ça fait partie en fait du vieillissement normal, mais la maladie d'Alzheimer s'accompagne d'autres symptômes et donc oui, il y a un déclin cognitif qui est associé à la maladie, mais avec l'âge, de toutes les façons, il y a un certain niveau de déclin qui se produit de toutes les façons vu au vieillissement.
Noa, vous êtes la directrice des communications à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. C'est une société qui est vaste, là, qui fait son effet un petit peu partout en province. Il y a 20 sociétés Alzheimer partout au Québec. Comment on les retrouve? Quels sont les services offerts? Je m'adresse aux gens. Vous savez, on est diffusé partout, là. Les gens peuvent vous joindre de quelle façon?
Donc, effectivement, on compte 20 sociétés Alzheimer à travers le Québec. On offre de l'information, de la formation pour les professionnels de la santé, mais c'est aussi des groupes de soutien, des visites à domicile, c'est du répit et de la stimulation pour le proche aidant et le patient, parce qu'on considère que c'est quand même très important de donner la possibilité au proche aidant d'avoir de temps libre pour soi, mais en même temps de stimuler justement, comme on disait, les fonctions cognitives restantes de la,
oui, il y a des ateliers
du patient.
Qui sont
exactement,
offerts.
Voilà. Donc ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être de la musicothérapie. De plus en plus, on développe de la zoothérapie, donc là où on a des animaux en compagnie des personnes. Et comment les retrouver ? Que ce soit en visitant le site internet de la fédération, donc alzheimerquebec.ca, ou encore sur nos pages Facebook. Donc là, on est très actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit de la fédération ou des sociétés Alzheimer. Et n'hésitez pas, elles sont là pour vous, on est là pour vous. Donc n'hésitez pas à les contacter pour avoir de l'information, d'autant plus qu'on est là et qu'on accompagne les familles et les patients dès qu'ils reçoivent le diagnostic et tout au long de la maladie.
C'est quoi le défi, justement, pour les familles, les proches aidants qui vivent avec une personne proche atteinte de la maladie d'Alzheimer?
Le défi, au début, c'est surtout d'avoir à gérer la personne elle-même. C'est pour cela qu'il est important, justement, on offre cette formation-là. C'est important de bien comprendre déjà la maladie, de savoir à quoi on s'attend finalement, vu que c'est une maladie qui va évoluer dans le temps, et donc comprendre quels sont les stades de la maladie et comment la personne va évoluer en fonction de ces différents stades. C'est aussi parfois la difficulté à avoir de l'aide. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que les sociétés Alzheimer sont vraiment là pour vous. On entend beaucoup de gens qui nous disent « Ah, mais je ne vous connaissais pas ou je n'ai pas eu l'idée de faire appel à vous ». Ben justement, c'est l'occasion parce qu'on parle beaucoup justement de fardeau pour les familles, ouais, et pour les proches aidants qui ne savent pas comment réagir face à cette nouvelle situation. N'hésitez pas en tous les cas à contacter les sociétés Alzheimer pour ça.
Et maintenant, parce qu'on aime bien se laisser sur de bonnes nouvelles, dernièrement, il y a de ça quelques semaines, on apprenait que l'équipe du docteur Jude Poirier de l'Institut Douglas de Montréal, donc des chercheurs québécois, avait découvert un gène protecteur qui pourrait retarder de 5 ans le développement de la maladie d'Alzheimer. Ça a retenti comment à la Fédération, cette nouvelle?
Ah ben, cocorico! Forcément, là, le docteur Jude Poirier, c'est une expertise dans le domaine de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. On avait réagi à cet effet justement dès l'annonce de cette nouvelle découverte. La recherche, c'est le maillon, c'est le nerf de la maladie d'Alzheimer. Sans recherche, on ne peut finalement pas avancer puisqu'il nous faut de nouveaux traitements. Donc oui, forcément, d'autant plus que le gène qui a été découvert, donc il est présent chez 25% de la population québécoise,
ouais,
et donc il intervient en fait dans le transport du cholestérol. Encore une fois, la relation entre les maladies connexes et la maladie d'Alzheimer encore a été prouvée. Donc, agir sur le cholestérol pourrait avoir un effet bénéfique sur la maladie d'Alzheimer. Et donc là, c'est des molécules qui sont soit déjà sur le marché, soit qui étaient déjà sur le marché, mais qui ont été pas écartés, mais en tous les cas, qui ont été laissés un petit peu de côté pour en développer d'autres. Et donc là, ça ouvre une piste nouvelle pour le développement d'inhibiteurs de cette enzyme. Donc oui, ça ouvre en tous les cas un espoir pour la maladie d'Alzheimer.
Et pour les familles et les personnes atteintes. Donc www.alzheimer.ca. Noah Bengayed, à la direction des communications de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, merci beaucoup.
Merci à vous.
À la prochaine.
À la prochaine.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Un courant assez récent qui a émergé dans les années 80 aux États-Unis, le langage des signes pour bébés, pour nous en parler davantage. Afin que vous arriviez à mieux communiquer avec votre tout-petit, Marie-Danielle Boucher est enseignante, consultante, conférencière, associée chez Signé Bébé. Merci d'être là, Marie-Danielle.
Bonjour, Marianne.
Et joyeux anniversaire parce que Signé Bébé a pris naissance en 1994. Donc, ça fait...
En 2004, c'est ça.
Donc, ça fait 10 ans. J'avais le 10 ans, j'avais pas la bonne année de naissance. Et là, là, vous êtes plus jeune qu'on le pensait.
Vive la jeunesse!
Oui! Et d'ailleurs, c'est là-dessus que vous vous focalisez la jeunesse. Signé Bébé, c'est quoi?
Signé Bébé, c'est une entreprise en langage de signes pour bébé qui est partie... de très, très loin. Puis pour en parler, j'aimerais donner une petite idée d'où ça vient, le langage des signes pour bébé. Il y a un historique à tout ça. D'abord, on sait qu'on signe depuis toujours. Mm-hmm. C'est une façon de communiquer avec les gens. On voit ça dans les sports, on voit ça avec les atterrissages d'avions.
C'est commun.
Et chez les bébés, c'est la première chose qui va arriver chez eux. Ils vont commencer à faire des petits signes, bye-bye, souffler, de manière à communiquer avec nous. Mais la difficulté, c'est qu'à cet âge-là, ils sont tout petits, ils comprennent tout. Et c'est comme une petite boîte de Pandore. Et ils n'ont pas accès à partager avec nous leurs besoins.
Et parfois, ça les fâche.
Bien, ça les fâche et viennent frustrer.
Mais ouais.
Alors, il y a un monsieur dans les années 1800 qui était professeur à l'Université de Yale. Son nom, c'est William Dwight Whitney. Cet homme-là, il a observé qu'il y a des enfants qui étaient malentendants, ne pleuraient pas quand ils communiquaient leurs besoins avec les signes, tandis que tous les autres petits bébés du même âge chignaient pour avoir ce qu'ils veulent. Alors, il s'est mis à regarder ça de près, puis il a constaté, étant donné que l'appareil phonateur n'est pas encore formé à cet âge-là tout à fait, ils ne peuvent pas exprimer ce qu'ils veulent. Alors, commencer avec des petits signes encore quand on prend nos deux mains, puis on les tape ensemble sur le bout des doigts. Et il a vu qu'il y avait un avantage à faire des recherches là-dessus. Mais c'est bien des années après que Joseph Garcia, dans les années 80, a fait sa maîtrise, ses études sur le sujet parce qu'il trouvait que c'était vraiment un créneau extraordinaire à exploiter. Alors, il y a eu des subventions et sur 20 ans, il y en a eu près de 109 subventions. Mais de là, il a écrit un livre qui s'appelle... Sign with your baby, pour les bébés entendants, pour aider les parents à communiquer avec leur bébé, aider les bébés à communiquer avec leur environnement. Et puis après ça, il s'est mis à décrire un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi dans les milieux, par exemple, avec les pédiatres, dans le milieu médical. Un pédiatre, un bébé qui est capable de faire bobo, puis de montrer l'endroit où ça fait bobo, ça aide
beaucoup.
C'est
un temps fou de gagner pour le médecin.
Oui, oui. Et
la maman et le papa.
La maman et le papa. Puis ensuite, il y a eu Linda Credolo, qui, elle, a parti Baby Signs, qui a donné un grand coup, un grand élan sur le langage de signes pour bébé. Sa petite fille était devant les fleurs, puis elle faisait... Puis elle s'est dit, oh mon Dieu, regardons ça, les signes, c'est intéressant. On pourrait peut-être faire quelque chose. Elle et Susan Goodwin se sont associées et elles ont travaillé ensemble pour pouvoir créer le Baby Signs qui, là, a fait fureur partout dans le monde avec Oprah qui en a parlé à son émission. Alors, c'est devenu, on parle ici des années 87-90, et ils ont eu une subvention d'un demi-million de l'Institut national de santé pour vraiment mettre leur livre à point parce qu'il faut beaucoup de chercheurs, beaucoup de spécialistes en problèmes langagiers, en éducation, en psychologie, pour pouvoir comprendre ça et être capable de le verbaliser puis de faire en sorte que la population comprenne que c'est pas une langue de malentendant, c'est un langage.
Et que ça ralentit pas nécessairement l'apprentissage du langage pour l'enfant. D'ailleurs, à partir de quel âge l'enfant est en mesure d'apprendre le langage des signes?
Alors, l'enfant peut apprendre le langage des signes à partir, on dit, 6, 7, 8 mois. il commence à être capable de les remettre, de les donner. Donc, il observe, si on commence déjà tout de suite dans le ventre de la mère quand il est là, que les parents s'entraînent, et puis quand le petit bébé commence à voir vers 2 mois bouger les petites choses autour de lui, il voit les signes, puis vers l'âge de 6 mois, il est habitué à en recevoir pour les petites choses habituelles. Quand on communique, puis on fait « bye bye », ben c'est tout aussi simple de faire manger, oui, dodo, couche, besoin d'aide.
Vraiment les mots qu'on utilise au quotidien.
Oui, les plus importants d'abord, parce qu'il n'y a pas besoin d'un baccalauréat, le petit bébé, là. Il commence, il veut juste ses besoins de base, hein, sa doudou, sa suce, tout ça. Donc nous, signé bébé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu que tout ça était en anglais. Pardon, et Valérie Paré, qui a fondé signé bébé en 2004, a pris tout ce qui s'est fait. Et elle a dit, on va faire un coffret pédagogique francophone pour la francophonie au Québec, au Canada. Et maintenant, on est en Europe, en France, en Belgique. Et donc, elle a fait un CD avec 100 signes, avec sa petite fille de 3 ans. Les enfants adorent ça.
C'est Mélisande, oui.
Mélisande. Et ensuite, elle a ajouté à ça un guide qui enseigne comment faire les signes et puis une affiche plastifiée qu'on peut laver facilement, où il y a les 89 signes et des conseils.
Et d'ailleurs, pour en savoir davantage, on peut aller au www.signébébé.com. Marc-Daniel, ça a été très, très rapide.
C'est un plaisir.
D'ailleurs, sur le site, on pourra en apprendre davantage sur les ateliers et également les formations.
Les formations d'instructrices.
Parce que c'est accessible pour tous les parents.
Oui, c'est accessible pour tous les parents. Merci.
Merci beaucoup, Marc-Daniel.
Bienvenue.
Marc-Daniel Boucher, je le rappelle, conférencière associée chez Signé Bébé, également formatrice. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là, canalm.org pour nous rejoindre. Et puis, on est également sur Twitter et Facebook. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye!